J'étais un peu long sur ces notions-là, probablement. Et du coup, j'en arrive à la question des passages à l'échelle et des passages à l'échelle qui m'intéressent plus particulièrement. Je ne reviens pas sur l'idée qu'il faut tordre le cou à l'idée qu'on n'est pas sur une question d'échelle ou de taille de la ressource quand on parle de passage à l'échelle. Et je ne reviens pas sur les exemples. Tu citais l'exemple de la loi, la loi qui a été adoptée, enfin le décret qui a été adopté par Obama sur l'espace. On voit bien aujourd'hui toute l'importance qu'a cette décision qui va engager, je pense, des choses très très importantes pour l'avenir au niveau des technologies, au niveau du développement. C'est vraiment quelque chose de majeur et je crois que c'est vraiment. Il faut bien comprendre que on a aujourd'hui un certain nombre d'expériences. L'idée que c'est une question de taille de ressources, il faut aussi la combattre, tout simplement en disant qu'on a des expériences de gestion des communs globaux ou de grande taille, en tout cas, qui sont tout à fait. Qui fonctionnent. Et donc, on ne peut pas opposer cette idée-là du fait qu'on serait incapable de le faire. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, le premier passage à l'échelle qui, moi, m'intéresse, en fait, c'est le passage à l'échelle, je dirais, qui est celui de l'élargissement des communs à toute la société, à la société dans son entier. Ce qui est clair quand on regarde les communs aujourd'hui, ce qu'on a appelé les communs tout à l'heure, je glisse en permanence sur mon expression, c'est que ces communs-là, ils sont beaucoup plus nombreux. Les initiatives de réseaux de consommation collaborative, les banques de temps, les coopératives, les jardins communautaires, etc. Ces initiatives-là, elles sont beaucoup plus présentes dans des contextes, dans des quartiers où il y a des quartiers de la classe moyenne plutôt que ceux de faibles revenus. Ça veut dire que ces initiatives-là, ces initiatives de commoning, elles se mettent en place, elles dépendent pour se mettre en place d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas partagés de manière égale. Le simple fait de faire ce constat, enfin, je dirais que Joan Subirat et Castells ont fait ce travail-là à Barcelone, en Espagne, d'essayer de comptabiliser, de faire cette recherche-là. Ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, il y a une vraie différence, et que cette différence-là, elle ne peut pas être réduite à des questions purement de base matérielle des ressources, ou de la façon dont les conflits et les crises nous attaquent, et que du coup, par réaction, on construit des communs. On voit bien que on ne résout pas la question de cette manière-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces contextes-là, enfin, en tout cas dans le contexte de la capacité de la classe moyenne à mettre en place un certain nombre d'initiatives, il se construit des politiques publiques en relation avec les communs. Par exemple, en Italie, vous avez dû entendre parler des systèmes, des dispositifs de chartes de communs comme ce qui existe, ce qui a été initié à Bologne et qui ensuite s'est répandu un peu dans toute l'Italie. Ces dispositifs-là vont effectivement pouvoir se mettre en place parce qu'on s'appuie sur des quartiers qui ont une certaine capacité à conduire des initiatives, à faire un certain nombre de choses. Et donc, on a là une forme aussi de politique publique qui va se construire à partir de cette capacité-là. La question que ça pose, c'est une des questions que moi je me pose, en tout cas en voyant ça, c'est au fond, est-ce que cette vision, quand on dit ces initiatives, elles n'existent ou elles existent plus dans ces espaces-là? c'est pas parce qu'on a des mauvaises lunettes. Est-ce que c'est pas simplement parce qu'on n'est pas capable de voir les initiatives qui existent ailleurs, qui sont non pas celles de la classe moyenne, mais qui sont celles de communautés qui ont d'autres modalités de collaboration, d'autres dispositifs qui sont mis en place. Moi, je pense par exemple à toutes les collaborations qui sont mises en place par les migrants ou par les communautés entre leur pays et leur pays de migration et leur pays d'origine, par exemple, le commerce organisé par les femmes qui font circuler un certain nombre de ressources à travers les chemins de la migration, par exemple, la manière dont les circuits d'approvisionnement alimentaire dans les quartiers populaires pour les communautés particulières se construisent. On voit que là, on a en fait aussi une certaine vision. On a peut-être intérêt à essayer de voir aussi parfois notre vision n'est pas un peu déformée par le prisme des communs tel qu'on le regarde aujourd'hui à travers ces initiatives, ces initiatives emblématiques. Alors, je pense que ce qui me paraît important aussi, enfin, il y a deux exemples que je trouve. Disons que, comme je disais juste avant, selon la manière dont on regarde tout ça, on va avoir des stratégies d'élargissement des mouvements de lutte qui peuvent être très différents. C'est-à-dire que se poser la question de l'élargissement des communs, selon qu'on regarde les choses d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça va être très différent. Excusez-moi, forcément, ça arrive quand on parle. Je pense, par exemple, que c'est très la question, pour moi, elle est aujourd'hui comment est-ce que les communs vont nous permettre de construire des relations qui sont des relations de soutien mutuel et qui sont des relations qui permettent d'avoir une transformation sur le plan politique, une transformation des personnes sur le plan politique. Deux exemples que je voudrais vous donner à ce sujet-là sont les suivants. En Espagne, toujours à Barcelone, enfin pas qu'à Barcelone, dans toute l'Espagne, vous avez une organisation qui s'appelle la PAH, qui est la plateforme contre les hypothèques, qui s'oppose aux hypothèques, qui est une organisation nationale, qui s'est déployée sur toute l'Espagne au moment de la crise, c'était en 2008, si je ne me trompe pas, qui a une pratique qui est très intéressante. Au départ, les gens qui sont venus voir la PAH, ils viennent chercher des renseignements, ils viennent chercher de quoi résoudre leurs problèmes. Ils sont au bord d'une expulsion, ils sont acculés à chercher les dernières ressources pour ne pas se faire éjecter de chez eux. Et en fait, le travail que va faire la PAH, c'est non seulement d'accueillir les gens, mais de montrer que finalement, c'est à travers l'engagement mutuel qui vont pouvoir beaucoup mieux lutter contre les expulsions. C'est que c'est pas seulement un lieu où on va trouver de l'information, mais c'est un lieu où on va trouver un accueil, une reconnaissance de la personne comme victime et une capacité à construire ensemble un processus politique de lutte contre les expulsions qui n'est pas seulement le sien propre, mais qui est aussi celui de travailler avec les autres. Donc on a là effectivement une transformation, de mon point de vue, une transformation politique qui est très intéressante. Un autre exemple qui touche aussi au logement, c'est pas pour cette raison-là que je l'ai choisi, mais parce qu'il me semble aussi très très intéressant, c'est celui du Community Land Trust à Bruxelles. À Bruxelles, si vous, je ne vais pas revenir sur le principe du Community Land Trust en général, c'est un dispositif qui permet de dissocier la propriété du sol de la propriété du logement. Ce que je voudrais pointer dans la pratique du Community Land Trust de Bruxelles, c'est le fait que on va en fait passer là aussi de la recherche de logement à l'autoconstruction collaborative, au fait de construire une communauté qui va construire ensemble son logement, qui va le négocier, qui va le travailler avec des gens qui le construisent et qui va organiser en fait une vie collective, une vie communautaire, on pourrait dire, à l'intérieur de ce logement. Donc le travail essentiel du Community Land Trust de Bruxelles, ça n'est pas seulement d'avoir des architectes, d'avoir une capacité d'accès aux fonciers et à des financements qui permettent de faire ce cheminement-là, mais c'est tout le travail de politisation de la question du logement, de l'habiter dans la ville ensemble, qui va être très important. Deuxième passage à l'échelle, type de passage à l'échelle qui me questionne, c'est celui de l'application universelle des droits. Clairement, quand on parle de commun et de souveraineté communautaire, il y a une dynamique d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dedans et puis il y a ceux qui sont à l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la frontière est certainement plus floue, est un peu différente, mais il n'empêche qu'on a quand même quelque chose. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit de l'élitisme d'un certain nombre de... Enfin, aussi, plutôt, je vais y revenir, d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure du fait que des initiatives émergent dans les quartiers plutôt de classe moyenne que de classe populaire, on peut mettre ça aussi en parallèle avec le fait que un certain nombre d'initiatives vont avoir des effets d'élitisme. C'est-à-dire que, par exemple, c'est, bien entendu, quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est intrinsèquement dans le projet des gens d'être élitiste. Mais si vous prenez, par exemple, les projets d'alimentation bio dans la ville, qui sont pour moi complètement inscrits dans le commun, vous connaissez probablement, si vous fréquentez le quartier, le projet de la Louve, du centre commercial, enfin, du supermarché collaboratif qui est installé dans le 18e arrondissement depuis maintenant 3 ans, eh bien, on voit bien que là, il y a ce que j'appellerais des effets d'élitisme. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'entre-soi. La communauté qui fabrique ce lieu-là va de fait se retrouver dans un certain entre-soi et va être confronté au problème de savoir comment dépasser cette limite-là. Et ce n'est pas quelque chose de simple, et on le retrouve, toujours pour parler du 18e, il y a d'autres projets qui sont de nature différente et qui rencontrent le même problème. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la coopérative Corto. Corto, c'est une coopérative qui, sur l'ensemble de... sur différents pays d'Europe, même aujourd'hui, permet d'importer des fruits, d'importer des agrumes depuis la Sicile, depuis le producteur. Donc il y a un dispositif d'achat, une sorte d'achat groupé, si vous voulez, qui permet en accord avec les producteurs d'agrumes en Italie, en Sicile, d'acheminer par camion des commandes de marchandises, essentiellement des agrumes, mais aussi d'autres produits. Et ensuite, ces camions arrivent dans le sud de la région parisienne, il y en a qui arrivent dans la région lyonnaise, il y en a qui arrivent dans différentes régions de France aujourd'hui, et vont être redistribués, comme ça, un petit peu comme un système en cascade, jusqu'aux habitants, là, il va y avoir, je crois que c'est mercredi, demain, on va avoir une livraison de Corto à un endroit qui s'appelle EcoBox, qui est aussi une autre initiative autour de jardins partagés. On voit que dans une initiative comme celle-là, où a priori il y a une volonté de travailler à une transition écologique et sociale, on voit qu'en fait, ces initiatives-là ont énormément de mal à intégrer ou à travailler ou à prendre en compte les personnes les plus défavorisées. Alors bien sûr, là, le problème, il est certainement pas de rejeter ces initiatives. On ne va pas dire que pour cette raison-là, il ne faudrait pas qu'elles existent. Mais il est de voir comment est-ce qu'on peut les articuler avec des dispositifs de lutte universaliste autour des droits humains, je pense. Alors, comment est-ce qu'on essaye de faire ça aujourd'hui? On essaye, par exemple, de développer des approches, d'articuler des questions qui vont pouvoir faire l'objet d'un travail d'un travail écosystémique, d'une approche écosystémique plus générale. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, on est toujours dans le même quartier, dans le 18e, on a lancé une démarche qu'on appelle donc écosystémique autour de l'économie du livre, autour de l'économie de l'économie du livre, en considérant d'une part la lecture aujourd'hui dans un quartier comme celui-là, qui est un quartier mixte avec la classe moyenne et une partie populaire, et un quartier qui accueille de manière massive des migrants dans une situation d'urgence, une question comme celle de la lecture, une question comme celle de l'écrit, de l'accès à l'écrit, est une question qui est fondamentale et qui permet de toucher réellement aux droits et de toucher à la fois à des problèmes de diversité culturelle, à des enjeux de diversité culturelle, à l'intersectionnalité des luttes et à l'hospitalité notamment. Il y a deux choses qui se construisent à partir de cette idée-là. D'une part, il y a l'idée qu'on veut faire apparaître, on veut rendre visible l'économie de la lecture dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on veut renverser l'iceberg qui ne fait que montrer la partie de l'économie marchande aujourd'hui, pour rendre visibles toutes les autres économies qui sont non marchandes, qui sont collaboratives, qui sont coopératives, qui soient celles des communs, qui soient celles de l'informel, etc. Montrer que l'ensemble des gestes qui se rattachent à cette question-là font partie en fait du problème aujourd'hui, et que c'est cet ensemble-là, c'est en considérant cet ensemble-là qu'on va pouvoir construire une politique culturelle, une politique du livre ensemble. La deuxième dimension qu'on va travailler, c'est le fait de considérer que le livre, il est fabriqué à partir d'un bois qui vient d'un certain endroit, qui voyage à travers le monde et qui aujourd'hui va être éventuellement lu et ensuite va poursuivre son chemin dans une chaîne de réusage du papier, de refabrication du papier, etc. Et que on doit du coup articuler ces deux dimensions-là. Pour ça, on a proposé de mettre en place ce qu'on a appelé une assemblée populaire de la lecture sur le quartier de la Chapelle, par exemple. On est en train de réfléchir à un dispositif de cette nature-là, c'est-à-dire un espace dans lequel on va pouvoir articuler, on va pouvoir coordonner un certain nombre, on va pouvoir se coordonner entre acteurs, entre personnes qui sont concernées par cette question-là. Au fond, ce qu'on défend, c'est l'idée qu'on a besoin d'avoir un espace qui soit un espace politique autonome pour traiter de ces questions. J'ai nommé la lecture, je parlais tout à l'heure de l'alimentation, on pourrait élargir ça à d'autres questions qui sont les questions qui nous concernent au premier chef, autour de l'énergie, autour de l'accès à l'eau, autour de l'eau, pas seulement l'accès, mais de toutes les questions qui concernent ça. Et ça reconstruit, de mon point de vue, en tout cas mon hypothèse, c'est que ça nous permet de reconstruire la notion de commun, non plus à partir de la gestion de la ressource, comme on disait tout à l'heure, mais bien à partir de cette autonomie politique, de cet espace d'autonomie politique qui reconsidère et qui repolitise des questions qui sont jusqu'à présent considérées comme des questions de gestion. Et derrière le mot de gouvernance aujourd'hui, on entend bien plus souvent une problématique de gestion qu'une problématique de gouvernement. Donc pour moi, ce qui est important, c'est effectivement de ramener la question du gouvernement plutôt que de nous faire enfermer dans la question de la gestion. Alors, bien sûr, je vous ai donné cet exemple de l'Assemblée populaire de la lecture parce qu'il est un peu nouveau, qu'il me séduit pas mal, mais on a d'autres formes de coordination. Et je pense que c'est important de considérer que, au fond, le mouvement des communs, une chose qu'il doit construire, ou qu'il doit permettre de réaliser comme tel, c'est qu'il y a un travail à faire sur un ensemble de, de forme, de modes de coordination et de formes de coordination qui sont qui peuvent se compléter les unes les autres, qui peuvent permettre justement de travailler sur du translocalisme, etc. Alors parmi elles, on va citer certaines que vous connaissez certainement, le peer-to-peer, l'idée d'une collaboration de pair à pair horizontale, qui est bien sûr soutenue par le réseau Internet aujourd'hui. On va citer aussi les formes d'assemblée ou de chartes des communs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pour moi, ces objets-là, on doit les considérer pas seulement comme des objets juridiques, mais aussi comme des objets de coordination politique. C'est-à-dire que, par exemple, les discussions qui avaient lieu à Milan au moment où s'adoptaient les chartes de Bologne et où la ville de Milan aussi proposait d'adopter des chartes, entre les gens qui occupaient des lieux, qui squattaient des lieux, des centres sociaux, ce qui veut dire exactement la même chose en Italie qu'en France, c'était de savoir si on devait ou pas rentrer dans ces systèmes qui créent en fait un espace politique dans lequel va être gérée la relation entre la puissance publique les acteurs militants de la culture en Italie, par exemple. La question même dont les chartes ne sont pas seulement un règlement, ne sont pas seulement un acte juridique, une norme juridique, c'est aussi un espace politique dans lequel, enfin, c'est aussi une question politique en tout cas, qui constitue ou qui configure finalement l'espace politique. Et je pense que Isabelle parlera de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure, mais on a aussi effectivement, tu citais, quelqu'un citait aussi les contrats de. Les accords individuels des paysans à Notre-Dame-des-Landes, on voit bien que là, ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes juridiques ou administratifs, sont aussi des outils politiques qui servent à configurer l'espace politique. Et c'est donc très, très important. Encore un autre. Alors, bien sûr, là, il y a l'autogestion, il y a le municipalisme, et je reviens pas sur ces questions-là. Le deuxième point, moi, qui me paraît très important, c'est comment est-ce qu'on se réapproprie notre rapport à la connaissance. Derrière la question des communs, en fait, derrière le commoning, les initiatives qu'on a pu citer jusqu'à présent, en fait, il y a les communs sont des communs parce que ce sont des espaces de savoir vivant. Ce sont des espaces dans lesquels on produit la connaissance. On partage la connaissance entre nous et éventuellement avec l'extérieur, ça c'est possible, mais en tout cas, on construit un savoir, une connaissance, une pratique politique qui va être quelque chose de très important. Je reviens pas sur les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure avec PAH ou les Community Land Trust. Ça, pour moi, aujourd'hui, on a un enjeu, je le dis aujourd'hui volontairement à cette tribune. On a un enjeu qui est celui de la relation avec l'espace de production de la connaissance institutionnelle, qui est l'université. On est aujourd'hui, et tout à l'heure je le disais, les communs sont étudiés sous le prisme économique essentiellement. C'est-à-dire qu'on regarde les communs comme des mécanismes de gestion d'une ressource, bien plus que comme des mécanismes politiques. Et je pense que on aurait besoin de pouvoir presque provoquer l'université aujourd'hui dans la sphère des communs pour pouvoir changer un petit peu cette donne-là. Le troisième point, et ce sera le dernier pour moi, il est qu'on a besoin aussi de pouvoir déployer un rapport aux politiques qui soit différent. On a vu tout à l'heure Pierre parler du municipalisme. Je ne veux pas revenir sur cet aspect-là, mais je veux mettre l'accent sur un autre aspect. Aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup des communs, comme on les a cités et comme je les ai cités moi-même, à travers des initiatives qui se répandent sur le territoire. Mais on a aussi, en fait, derrière les formes de coordination, un certain nombre d'organisations, un certain nombre d'institutions, un certain nombre de mécanismes, de mécanismes d'organisation qui se construisent et qui doivent pouvoir nous servir pour reconstruire ou reconfigurer la relation entre l'État, les communs et le privé ou le marchand. Je pense par exemple à ce que j'appellerais moi des nouveaux mouvements sociaux, mouvements sociopolitiques, qui sont ceux qui s'attachent à une cause, par exemple les fondations de toute la nébuleuse du libre, qui sont extrêmement nombreuses et qui articulent à la fois l'action à travers la garantie de moyens d'un certain nombre de projets. Si vous regardez Wikipédia, qui est le système, l'un des communs les plus célèbres, on va dire, derrière Wikipédia, vous avez un système, un dispositif de fondation qui permet en fait de garantir les moyens de vie de cette organisation, de ce qui est aujourd'hui un mouvement d'éducation populaire ou un mouvement social. Et vous en avez d'autres, on a cité Terre de Liens par exemple tout à l'heure, on a autour de l'énergie des organisations comme Mégawatt, on a d'autres organisations qui sont dans le monde paysan, par exemple Atelier Paysan. Il y a un ensemble d'organisations qui sont aujourd'hui des infrastructures du monde des communs, qui peuvent être aujourd'hui des bases pour construire les politiques de manière différente. Et je crois que c'est ça qui permet aujourd'hui aussi de donner de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de construire une stratégie et pas seulement agir de manière tactique localement, mais de construire effectivement des stratégies de transformation des politiques en général. Merci.